Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. Je suis Franck, et je suis ravi de vous retrouver pour cette 235e émission d'À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel consacré à l'astronomie et à l'astronautique, chaque troisième dimanche du mois, de 13h à 14h. Une émission qui a pour marraine Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et pour parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Aujourd'hui, nous vous proposons de remonter 50 ans en arrière, à l'époque où l'exploration de Mars franchissait un cap décisif. En 1975, étaient lancées les sondes Viking 1 et Viking 2. En 1976, elles arrivaient autour de la planète rouge et ouvraient une nouvelle page de l'aventure martienne. Le thème de cette émission s'intitule donc Viking 1 et Viking 2, 50 ans d'aventure martienne. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Olivier de Goursac, vice-président de la commission de planétologie de la Société Astronomique de France, passionné de Mars depuis l'enfance et grand connaisseur de l'exploration martienne. Olivier de Goursac, bonjour.
Oui, bonjour Franck.
Merci d'être présent pour cette émission À toi les étoiles. Et avant de revenir sur Viking 1 et Viking 2, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots à nos auditeurs et que vous nous expliquiez d'où vient cette passion pour Mars.
Merci Franck. En fait, la passion pour Mars est venue très jeune, vers l'âge de, on va dire, 7 ans, ou 6 ans, quand j'ai commencé à dévorer des livres que me rapportait mon père des États-Unis, parce qu'il était directeur d'une entreprise américaine, et il avait aussi un bureau à New York, et il ramenait les livres Time Life, vous n'avez forcément pas connu, qui étaient des livres extrêmement bien illustrés avec des peintures de Chesley Bonestell, qui est le peintre iconique du spatial et de l'exploration dans les années 50-60, on va dire, et un peu dans les années 70. Et moi, ça m'a fait rêver complètement. Et puis, je lisais dans le texte, pas tout, mais quand même une bonne partie de l'astronomie populaire de Camille Flammarion, mais celle qui était revisitée par René Danjon en 1951, qu'on avait à la maison. Et je trouvais ça extraordinaire et passionnant. Voilà, donc je suis rentré comme ça, en fait, dedans complètement.
Et tout comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit et vous vous êtes passionné pour l'astronomie, mais aussi pour la planète Mars. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler des missions Viking 1 et Viking 2. Dans quel contexte, Olivier de Goursac, sont nées ces missions ?
Alors en fait, Viking 1 et Viking 2, les missions et Viking avant s'appelaient Voyageurs. Alors il ne faut pas confondre avec le Voyageur, les sondes Voyageurs qui sont parties vers les planètes géantes du système solaire. Mais par contre, on avait donné ce nom-là au programme qui allait visiter la planète Mars. Et ce qui s'est passé, c'est que donc c'est né en 1962-63. Et en 1967, patatras, avec toutes les émeutes qu'il y a eu aux États-Unis, la NASA s'est vue privée d'une bonne partie de son budget, et ça a entre autres annulé les dernières missions Apollo. La conséquence, c'est qu'on a annulé, à partir des années 67, on a annulé les missions Apollo 18, 19 et 20, qui auraient dû envoyer des hommes sur la Lune, et puis on a sabré complètement le programme Voyageur, et même annulé le programme Voyageur vers Mars. Et en fait, il va renaître en 68 et en 69 de la volonté de quelques-uns qui ont décidé que on pouvait quand même partir vers Mars, mais en divisant vraiment les coûts et en faisant une mission, on va dire, à bas prix. Bon, elle est à des coûts quand même énormes pour nous aujourd'hui, mais pour eux, à l'époque, c'était vraiment pas cher. Voilà.
Dans les années 1960 et 1970, la planète Mars fascinait, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi elle fascine autant, Olivier de Goursac ?
Alors, à l'époque, c'était la planète de tous les rêves. Alors, il y avait trois raisons. Il y avait une raison culturelle, parce que les gens avaient en tête la guerre des mondes de Wells. Donc, avec les martiens, elle avait été potentiellement peuplée de martiens. Dans l'imaginaire du grand public, c'était ça. Pour les chercheurs, c'était la frontière de l'exobiologie à l'époque. C'est-à-dire que est-ce que la vie aurait pu se développer sur un autre corps du système solaire? En particulier, Mars semblait être la planète la plus favorable à l'émergence de la vie en dehors de la Terre. Et pour les ingénieurs, c'était le rêve d'un monde nouveau. Il faut savoir qu'après la guerre, si vous voulez, très vite, on a illustré le voyage vers Mars, parce que von Braun avait des projets pour aller vers Mars. Et c'était aussi un rêve d'ingénieur, en fait, un rêve d'un monde nouveau. Après la guerre, on rêvait de choses, de réinventer le monde. Donc on rêvait d'aller explorer le fond des océans, on rêvait d'avoir de grosses voitures, on rêvait de nouveaux biens de consommation, et on rêvait de nouvelles frontières. Et les nouvelles frontières, c'était évidemment le fond de l'océan, pourquoi pas des villes sous-marines, et puis bien sûr la colonisation de l'espace.
Olivier de Goursac, les missions Viking 1 et Viking 2 étaient vraiment des missions ambitieuses pour l'époque.
Alors, ce qui rend Viking très ambitieux, c'est que d'abord, c'est la première fois qu'on va tenter de se poser sur une autre planète. Ensuite, on va aborder un monde qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que même si on a des vues, quand même quelques vues prises, qu'on a survolées avec Mariner 4, Mariner 6, Mariner 7 et un début de cartographie pas si mal que ça avec Mariner 9, Mars reste un monde inconnu. En fait, on ne connaît pas bien la surface. On a pu la cartographier un peu, donc pas à très haute résolution, mais on ne connaît pas l'atmosphère qu'on va traverser. On sait qu'au sol, il y a peut-être que 6 à 7 millibars, mais on ne connaît pas la structure de l'atmosphère. Donc on va l'apprendre, cette structure, en la traversant. On ne connaît pas le relief de la planète, parce qu'on n'a pas de niveau zéro. On a mis ce niveau zéro à 6 millibars, justement, le point triple de l'eau, c'est-à-dire que le point où l'eau est à la fois liquide, solide et gazeuse. Finalement, on ne sait pas est-ce que ce qu'on voit ou on pense poser, à quelle altitude c'est, parce qu'on ne sait pas quelle est la pression vraiment au sol à cet endroit-là. Donc, c'est très, très, très risqué. Et donc, pour ça, eh bien, il faut développer un tas de trucs et donc un tas de technologies. Et ces technologies, si vous voulez, c'est ça qui rend ce programme si extraordinaire, c'est que ils ont développé toutes les technologies pour s'y poser, donc c'est des technologies dont on se sert toujours aujourd'hui, hein, parce que les ingénieurs qui vont se poser sur Mars font toujours référence à ce qu'on appelle the Viking Heritage, c'est-à-dire l'héritage des ingénieurs vikings, on va dire, et du matériel viking. Et à l'époque, comme ils savaient pas où ils, comment ils allaient, enfin ils savaient comment ils allaient se poser, mais où ils allaient se poser, par exemple, ils ont développé trois diamètres de parachute dont on s'est servi. Alors il y a le diamètre bien sûr viking, 15 mètres, il y a un diamètre plus petit qui a servi pour Mars Pathfinder et les rovers Spirit Opportunity. Et un diamètre beaucoup plus gros, 21 mètres, qui a servi au rover Curiosity et Persévérance. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, en fait, les ingénieurs, ils ont un catalogue déjà de matériel testé et éprouvé pour se poser sur Mars. Et tout ça, c'est grâce à Viking. Et c'est pour ça que Viking est une mission qui a coûté très cher, parce qu'en dollars constants d'aujourd'hui, compensé de l'inflation, etc., on est à pas loin de 8 milliards et demi, 9 milliards de dollars.
C'est énorme. On peut dire que ces sondes ont marqué une nouvelle étape dans l'exploration de la planète Mars, Olivier de Goursac.
Oui, puis même des planètes, parce qu'on a conçu donc des robots qui allaient se poser à la surface d'une autre planète. Il fallait ces robots soient autonomes, donc puissent avoir un début d'autonomie avec une programmation au cas où ils n'arrivaient pas à joindre la Terre en communication. Il fallait automatiser un certain nombre de sections de tâches à bord. Ça voulait dire un vrai ordinateur de bord et pas un ordinateur à la Apollo, là, quelque chose d'un peu plus perfectionné. Il fallait résister à un environnement qu'on ne connaissait pas, hein, parce que même à 6 millibars ou 7 millibars de pression, il peut y avoir des vents, il peut y avoir des phénomènes avec peut-être de la gelée qui se dépose, il y a de la poussière forcément. Enfin, en tout cas, c'était un vrai challenge à l'époque. Et ben, ça marchait. Parce que ce que disait d'ailleurs Jim Martin, c'est qu'il disait, on lui disait, mais est-ce que vous avez des chances de se poser sur Mars? Et Jim Martin disait, moi je crois pas à la chance. Je crois que c'est toutes les heures supplémentaires de travail que les gens ont données qui vont faire que ça va marcher. Et il avait raison, parce qu'effectivement, ils ont tout testé, tout regardé, etc. Et puis c'était des ingénieurs extraordinaires. Moi, j'ai eu l'occasion de les croiser. C'était quelque chose, vraiment. Ils étaient tous issus du programme Apollo. Ils avaient en tête la réussite. Ils bossaient comme des fous. Et les ingénieurs qu'on a aujourd'hui au JPL sont tout à fait dans la même lignée.
Vous écoutez l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes dimanches de chaque mois, de 13h à 14h sur IDFM Radio. C'est Franck et je reçois Olivier de Goursac, vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France. Nous parlons aujourd'hui des sondes Viking 1 et Viking 2 qui célèbrent cette année leurs 50 ans d'aventure martienne. Olivier de Goursac, on va s'intéresser maintenant à la première sonde, Viking 1. Cette sonde a été lancée le 20 août 1975 depuis les États-Unis en plein cœur de l'été.
C'est ça. Alors, on lance Viking 1 pour un voyage d'environ, je crois pas vous dire bêtise, entre 700 et 800 millions de kilomètres, parce qu'elle fait toute une courbe, une longue courbe d'ailleurs, pour rejoindre Mars. Et puis, ensuite, on va passer en orbite autour de Mars au mois de juin 1976. Et là, il faut se poser sans trop tarder, parce que si on veut avoir un vrai début de mission, il faut, enfin, ils avaient décidé qu'il fallait au moins avoir 3 mois de mission. Pourquoi? Ils étaient coincés par le temps, c'est qu'après Mars rentrait en conjonction avec le Soleil, et donc les communications radio devenaient impossibles pendant 3 semaines. Donc il fallait qu'on ait une vraie mission, et ça c'était au mois de novembre 76. Donc il fallait avoir une vraie mission, et donc il fallait se poser ben, globalement en juillet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au vu des premières images prises par l'orbiteur numéro 1 de l'endroit où ils allaient se poser, ils sont aperçus que les terrains étaient très chaotiques. Enfin, c'était pas. En tout cas, les géologues de l'époque n'avaient pas confiance du tout dans cet endroit-là, qui était un endroit qui a été repris plus tard, puisque c'est l'endroit exactement où on s'est posé avec Mars Pathfinder en 1997. Et ils avaient finalement raison de ne pas s'y être posé, parce que effectivement, la sonde se serait écrasée à cet endroit-là. Elle serait venue taper sur des très grosses roches, et le fond de la sonde aurait été littéralement enfoncé et détruit. Donc ils ont choisi de se déporter vers le nord. Ouest de 850 km.
Une fois lancée, comment la sonde fait-elle pour rejoindre la planète Mars, Olivier de Goursac? Elle est transportée à bord d'un véhicule?
Alors la sonde, en fait, elle-même, elle est accrochée à son orbiteur, Viking 1, dans un cocon qui lui a servi à être stérilisé, parce qu'on ne voulait pas contaminer Mars par des microbes. Donc on avait mis la sonde dans une espèce d'autocuiseur et scellé, et on avait envoyé toujours l'autocuiseur scellé, on va dire, vers Mars. Et en orbite autour de Mars, une fois l'orbite bien calée, on a séparé l'autocuiseur en deux et on a exposé la sonde, c'est-à-dire la capsule de descente avec son bouclier thermique, la sonde à l'intérieur et son bouclier arrière. Le bouclier arrière, c'est le bouclier qui contient le parachute. Et on a largué cette capsule de descente vers Mars. Donc elle a abordé l'atmosphère de Mars en freinant d'abord avec son bouclier thermique. Ensuite, elle a ouvert vers 2000 km/h un parachute. Et ensuite, vers 200 km/h, elle a lâché le parachute et elle a fini sa descente par moteur fusée. Alors c'était quand même risqué parce que, si vous voulez, on savait que le parachute jouerait son rôle, mais il ne freine pas suffisamment pour permettre à une sonde de se poser à la surface. Donc il faut avoir des moteurs fusées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme on largue le parachute vers à peu près 2500 mètres d'altitude, la sonde va quand même à 200 km/h et il faut arriver sur les derniers 2500 mètres à freiner fortement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait une espèce de chute contrôlée avec les moteurs allumés, mais qui assure juste à la sonde de ne pas se retourner, se renverser. Et on donne un énorme coup de frein à la fin. Globalement, on freine vraiment à partir sur les 300, 400 derniers mètres. On donne vraiment le gros coup de frein final et on se pose.
Et tout s'est bien passé lors de l'atterrissage, Olivier de Goursac?
Tout s'est très bien passé. Alors, il y avait une télémétrie en direct, hein, parce que c'était des bons ingénieurs, donc c'était dit, ben, il faut qu'on ait en temps direct, alors, enfin, avec le décalage, bien sûr, du trajet Mars-Terre pour les communications, mais on avait un flux de données en direct qui disait, ben, bouclier thermique largué, là, on est globalement, on devrait être à telle altitude, le parachute est largué, ensuite les moteurs sont allumés, et ensuite, freinage final, et on se pose, et c'était des hurlements de joie au JPL, les gens se sont tous pris dans les bras, ont sauté de joie. Comme on voit aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque c'était une grande première quand même. Donc vous imaginez l'événement. Puis on se posait pour la première fois sur Mars. On n'avait jamais tenté l'expérience. Et ce qui était bien, c'est que quelque chose comme 25 secondes après, on avait un début d'image, c'est-à-dire le près du pied d'atterrissage, et à peu près 5 à 10 minutes après, on avait un début de panorama où on voyait là, pour la première fois bah, la surface de Mars avec ses pierres, ses cailloux, ses roches au loin, ses dunes de sable, son ciel. Enfin, imaginez la découverte que ça a été en l'espace d'une heure. Après s'être posé sur Mars, on avait d'un seul coup, on découvrait un tas de choses qu'on n'avait jamais vues avant.
On a pu observer les images qu'une fois que la sonde était posée sur la planète Mars. Il n'était pas possible de voir les images en même temps que la descente.
Non, non, c'était à l'époque considéré comme très compliqué à faire. Une caméra qui pointait. Et en plus, elle aurait été moyennement utile parce que on a largué le bouclier thermique finalement assez tard, vers 3000 mètres d'altitude. Et on pouvait pas. Enfin, on n'avait pas une caméra de type surveilleur. On avait prévu sur Viking une caméra à balayage. On aurait pu prendre des images si on avait prévu une caméra de type surveilleur, mais ça veut dire qu'il fallait avoir un film qu'on développe à bord. Ou une caméra de télévision qui prenne en direct, mais de toute façon, on aurait transmis sur une bande magnétique. C'était compliqué d'avoir un objectif qui pointait au navire. Ça, pour les ingénieurs, ça compliquait. Et puis, ça compliquait les télécommunications. Donc, ils ont voulu jouer la sécurité et se dire, ben, on va avoir un radar quand même qui va détecter la surface. Et puis, on découvrira la surface de Mars une fois posée. Mais ça veut dire que ça ne va pas non plus exactement là où elle s'est posée.
Vous êtes à l'écoute d'IDFM Radio dans À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et d'astronautique chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, dans cette 235e émission intitulée Viking 1 et Viking 2, 50 ans d'aventure martienne, je reçois Olivier de Goursac, vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France. On marque une première pause musicale et juste après, nous repartirons vers Mars avec le lancement de Viking 2, deuxième acte majeur de cette aventure martienne. Voici Michael Jackson avec Don't Stop Till You Get Enough.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on because the force is...
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
De retour sur IDFM Radio, vous écoutez À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et d'astronautique chaque troisième dimanche du mois, 13h-14h. Aujourd'hui, dans cette émission intitulée Viking 1 et Viking 2, 50 ans d'aventure martienne, je reçois Olivier de Goursac, vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France. Olivier de Goursac, une fois Viking 1 lancé, quelques mois plus tard, plus précisément le 9 septembre 1975, sera lancée la seconde sonde, donc Viking 2.
Alors on lance la seconde sonde Viking 2, qui est sa sonde jumelle en fait, et qui va arriver en août 76. Et tout de suite, on la met à la tâche pour chercher un deuxième endroit où se poser. En fait, on avait entre-temps, une fois Viking 1 posé, on avait assigné comme tâche à l'orbiteur numéro 1 de chercher un site pour l'atterrisseur numéro 2. Donc, on avait commencé déjà à travailler sur des sites d'atterrissage et globalement, tout ce qu'on avait imaginé avant a été balayé pareil pour des raisons de sécurité. Donc, il a fallu rechercher un nouveau site. Et là, on s'est dit, à l'époque, qu'il s'était dit, on va se poser plutôt au nord. Pourquoi au nord? Parce que y a des, on a, on pense qu'il y a beaucoup plus d'humidité au sol et donc de plus de facilité pour entretenir la vie. Par contre, si on se pose trop au nord, là, on va tomber sur des terrains gelés qui seront impossibles à creuser. En fait, ils ont eu raison parce que on a bien vu avec Phoenix, la sonde Phoenix qui s'est posée en 2008. Alors, Viking aurait pu se poser, bien sûr, à la latitude de Phoenix, mais il aurait pas pu vraiment creuser profondément la surface, simplement parce qu'il aurait raclé la glace. Et c'est ce qui s'est passé pour Phoenix, que Phoenix n'a pas pu entamer la glace qui était juste sous la mince couche de sol. Donc ça s'est quand même bien passé. Ils se sont posés à un endroit où ils pensaient trouver des grandes dunes. Et ben pas du tout. Le terrain était absolument caillouteux jusqu'à l'horizon. Voilà.
Ah, les sondes Viking 1 et Viking 2 avaient la possibilité de creuser le sol martien.
Voilà. Il y avait un bras télescopique qui a rien à envier à l'époque, mais même encore aujourd'hui, au bras télescopique d'aujourd'hui. Alors son but c'était quand même, il avait pas une grosse pelle, il avait une pelle plus fine parce qu'il fallait prendre du sol avec cette pelle, retourner le bras et saupoudrer les expériences avec un tamis pour analyser le sol et savoir s'il y avait de la vie dedans. Mais c'était un bras télescopique qui était une conception assez géniale. C'était comme un mètre ruban, vous voyez. Vous l'enroulez, et puis quand vous le déroulez, il reprend sa forme.
Olivier de Goursac, une fois que les sondes Viking 1 et Viking 2 sont arrivées sur la planète, elles se sont posées donc sur le sol, nous ont envoyé des photos du sol, mais c'était pas leur unique mission.
Alors, la mission principale, c'était de trouver la vie. Donc, connaître Mars. Alors, pour ça, il fallait connaître la surface de Mars. Donc, on a découvert la composition de l'atmosphère de Mars, qu'on ne connaissait pas non plus. On a découvert de quoi était fait le sol de Mars, qu'on ne savait pas. Donc, on a fait de la chimie du sol de Mars, qui est toujours valable. Ça a permis d'étalonner tous les instruments qui ont été envoyés par les autres sondes, en particulier Spirit, Opportunity, et puis les sondes, après les rovers Curiosity, Perseverance, bien sûr la sonde Phoenix. Donc tout ça, ça a permis d'étalonner les instruments, parce qu'on avait une composition du sol faite par Viking, qui est toujours la composition, disons, de référence. Donc puisqu'on a testé le sol de Mars sur 7500 km de distance, on a une surface, on va dire, moyenne de Mars, qui est composée de temps et de ça et de ça. Et donc ça sert d'étalonnement pour... les missions suivantes. Alors après, on a vraiment creusé pour trouver de la vie, et à ce moment-là, on a eu quelques surprises. En fait, il y avait trois expériences biologiques. Pour schématiser, deux ont répondu, alors il y en a une qui a répondu peut-être, une autre qui a répondu il n'y en a pas, et la troisième qui a répondu il y en a. Et tout le débat, ça a été ça, des débats passionnés, parce que les trois protagonistes des expériences étaient des gens qui... s'entendaient moyennement bien, et ils avaient tous envie de tester leurs expériences eux-mêmes. Ils se faisaient challenger, bien sûr, mais par des confrères qui considéraient qu'ils avaient forcément raison contre les autres. Donc ça n'était pas facile du tout.
Ah, quand les avis divergent, Olivier de Goursac, c'est pas facile. Mais comment ont-ils été départagés alors ?
Alors ils n'ont pas été départagés. La NASA a décidé que pas de molécules organiques égale pas de vie. Parce qu'on n'a pas trouvé les molécules organiques. Alors évidemment, le chromatographe n'a rien trouvé, mais il n'était pas très sensible non plus. Et on s'est aperçu, ou maintenant on le sait, c'est qu'en fait, il a détecté, mais à un niveau finalement très faible, des molécules organiques qu'on n'a pas su interpréter à l'époque. Et je pense qu'on aurait eu un chromatographe plus performant, la NASA aurait révisé son opinion. Mais quoi qu'il en soit, le fait qu'elle ait déclaré, pour couper court à tous les débats, qu'il n'y avait pas de vie sur Mars, ça a été désastreux pour les missions martiennes, puisque il s'est rien passé pendant près de 20 ans. Vous voyez, ça a bloqué la communauté scientifique, plus personne s'intéressait à Mars. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là au JPL, à la fin de la mission Viking, où c'était une catastrophe parce qu'il n'y avait plus de budget, plus rien, même pour les autres planètes. Plus personne ne voulait partir explorer le système solaire. Ça n'avait pas grand intérêt parce qu'il n'y avait pas de vie sur Mars. Ça devenait vraiment compliqué.
Olivier de Goursac est mon invité. Il est vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France. Nous sommes dans l'émission À toi les étoiles et nous parlons des sondes Viking 1 et Viking 2 qui se sont posées sur Mars il y a de cela 50 ans. Olivier de Goursac, vous parliez de recherche de vie et en 1976, Viking 1 a envoyé un cliché de la surface de Mars qu'on a appelé le visage de Mars.
Ah oui, alors ça a été annoncé comme une boutade par la NASA. Le fameux visage de Mars, c'était pour dire, regardez, il y a des formations qui ressemblent à des choses qu'on voit sur Terre, mais ne vous y méprenez pas, c'est une formation géologique. La NASA l'a tout de suite dit comme ça, mais par contre, les ufologues se sont tout de suite emparés du phénomène et en ont fait un thème majeur, alors qu'en fait, effectivement, c'était bien qu'une MESA très érodée. Et à l'époque, encore une fois, la NASA avait publié le cliché comme une boutade. Voilà, regardez ce qu'on voit d'orbite, c'est amusant, on dirait un visage. Voilà.
Et ce que l'on appelle les ufologues, ce sont les personnes qui font des recherches de vie extraterrestre.
Enfin, surtout qui pensent qu'il y a de la vie extraterrestre intelligente, avec des soucoupes volantes, c'est-à-dire qu'on est des ufologues, ils ont colonisé le Mars, et qu'il y a une conspiration du gouvernement qui nous cache les choses. Et donc la NASA a montré ce visage, mais elle voulait nous cacher qu'il y avait vraiment... une présence de gens, pourquoi pas hostiles, ou une ancienne civilisation qui avait été sur Mars, parce que c'était ça les thèmes, c'est il y a une ancienne civilisation sur Mars, regardez, ils ont construit un énorme visage humain pour nous montrer qu'ils sont là, et pour nous donner un signe vis-à-vis de nous, terriens. Et en fait, le gouvernement, en disant que c'est une MESA géologique, nous ment forcément. C'est un complot, évidemment, on nous cache des choses. En fait, c'était ça. Tout le débat, c'était ça. Hein. Pas tellement sur le visage lui-même, mais sur le fait qu'on mentait aux gens, que c'était une civilisation martienne ancienne. Donc, ça a été. En fait, le vrai débat, ça a été ça. Qui a été lancé par les ufologues.
Donc, Olivier de Goursac, sur la planète Mars, on avait deux sondes, Viking 1 et Viking 2, qui fonctionnaient ensemble. Est-ce que les sondes communiquaient entre elles ?
Alors, enfin, la seule liaison qu'il y avait, c'est que c'était les mêmes équipes qui s'en occupaient. Mais c'est un peu comme les rovers aujourd'hui, Spirit et, ou les anciens rovers Spirit et Opportunity, ils donnaient des résultats différents. Ils étaient à chacun à bout de la planète et ils n'avaient pas de liaison entre eux. C'est comme Curiosity et Persévérance qui sont à chacun à des emplacements différents et qui n'ont pas de liaison entre eux. Mais par contre, il y a des équipes qui travaillent de concert au GTL. Voilà, c'est un peu ça.
Olivier de Goursac, Viking 1 et Viking 2 sont donc arrivés sur la planète Mars il y a de cela 50 ans. Et pendant combien de temps a duré leur mission ?
Alors, Viking 1 a duré jusqu'en... la sonde au sol a duré jusqu'en... jusqu'à fin 82 et la deuxième sonde jusqu'en 1978, tout simplement parce que la seconde sonde, parce que ses batteries ont été assez abîmées, tout simplement elles ont fini par beaucoup chauffer et pendant l'hiver martien en fait il n'y avait pas d'activité de la sonde, elle chauffait pour rien et ça les a abîmées. Et à la fin, il a fallu après le deuxième printemps martien, il a fallu se résoudre à couper les signaux avec Viking 2, parce que les batteries se dégradaient très vite. Et pour Viking 1, c'est l'inverse. On pensait prolonger la durée des batteries jusqu'en 1994. Et en fait, au moment où on a envoyé une programmation pour augmenter la durée de vie de la sonde, la programmation n'a pas été assez testée. Et les éléments de la programmation se sont mis dans les coordonnées de l'antenne, ont effacé la mémoire des coordonnées de l'antenne à grand gain qui pointait vers la Terre, et elle a plus pointé vers la Terre, et après on a perdu vraiment le contact avec la sonde. Donc c'est malheureux, mais c'est la vie. On était tous tristes au JPL d'avoir perdu notre sonde martienne, parce qu'on se demandait quand est-ce qu'on se retrouvera sur Mars. Et effectivement, heureusement, il y a eu Mars Pathfinder, mais il a fallu attendre. Voilà.
Vous avez donné le temps en temps martien, mais en année terrestre, ça fait combien de temps ?
6 ans martien pour Viking 1 et 2 ans et demi... pour Viking 2. Alors, c'est pas tellement la durée de la mission qui est importante, c'est surtout ce qu'elles ont apporté comme résultat. Faut savoir que les orbiteurs Viking ont cartographié l'ensemble de la planète globalement à une résolution de 100 mètres, avec des zones à 40 mètres de résolution et des micro-zones à 7 mètres de résolution. Et c'est cette cartographie qui est toujours d'actualité, c'est MDM-12. Qui est la cartographie de base de Mars sur lequel on vient coller les autres cartes. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous avez un globe martien avec une résolution de 10 mètres au sol, fait par la caméra Themis de Mars Odyssey, de l'orbiteur Mars Odyssey. Donc, elle est visible sur Google Mars. Hein. Vous avez la carte de base, c'est celle de Mars Odyssey. Elle-même calée sur la carte Viking, qui reste la carte de référence. Alors, aussi pour l'albédo, quand vous voulez avoir une carte d'albédo référencée, c'est-à-dire les taches claires et les taches sombres à la surface de Mars, c'est toujours la carte de base, c'est la carte Viking. Parce qu'elle permet d'étalonner les changements de poussière au gré des régions. Donc il y a des régions qui, entre-temps, ont soufflé leur poussière, d'autres des poussières se sont assombries, et on mesure les assombrissements et les éclaircissements de la surface de Mars à partir de la carte Viking.
On marque une nouvelle pause musicale sur IDFM Radio dans ce voyage martien. Vous êtes dans À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et d'astronautique pour cette émission intitulée Viking 1 et Viking 2, 50 ans d'aventure martienne, en compagnie d'Olivier de Goursac, vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France. Juste après cette pause, nous reviendrons sur le rôle des orbiteurs Vikings et sur ce qu'ils ont apporté à la connaissance des lunes de Mars. Voici Angèle avec What You Want.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
De retour sur IDFM Radio, vous écoutez À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et d'astronautique chaque troisième dimanche du mois, 13h-14h. Aujourd'hui, dans cette émission intitulée Viking 1 et Viking 2, 50 ans d'aventure martienne, je reçois Olivier de Goursac, vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France. Olivier de Goursac, on a un peu oublié les orbiteurs qui tournaient autour de Mars. Peut-on dire qu'ils se sont intéressés aussi à Phobos et Deimos, qui sont les lunes de Mars ?
Oui, alors tout à fait, on s'est intéressé aux lunes de Mars. On les avait entrevues avec Mariner 9, pas si mal que ça. On avait vu leur forme de patatoïde, on va dire, ou cacahuète. Et Viking a pu vraiment mieux les détailler. D'ailleurs, à ce jour, c'est toujours Vikingien qui a le record du survol à plus basse altitude de Phobos, hein, qui a pris des images à haute résolution de Phobos. Alors, entre-temps, la caméra AIRAS de MRO a fait des vues d'un peu plus loin, mais beaucoup plus détaillées. Donc, on a quand même des vues époustouflantes prises par les caméras AIRAS d'MRO, et puis même de très très belles images prises par la caméra de Mars Global Surveyor. Quand j'ai démarré JPL, on commençait à connaître la forme de Phobos et Deimos, et on commençait à bien les caler en longitude et en latitude par rapport au sol de Mars, parce qu'en fait, elles présentent toujours le même... la même phase et on voit toujours la même chose. Elles sont comme la Lune, hein, on est toujours la même face de la Lune est tournée vers la Terre, mais la même face de Phobos et la même face de Deimos sont tournées vers Mars. Et à l'époque, on commençait tout juste à comprendre qu'est-ce qu'on verrait vraiment, comment on verrait Phobos depuis la surface de Mars. Et d'ailleurs, je peux vous dire, c'est que moi j'ai traité après à l'envers les images de Phobos prises par la Viking 1 à la surface de Mars, et on retrouve effectivement les phases de la Lune. Quand on retraite le signal, on voit très bien le cratère Stickney vu depuis la surface de Mars, et donc on le voit depuis la surface de Mars sur les images prises par la sonde Viking 1 posée à la surface de Mars. Mais à l'époque, on ne savait pas interpréter. Et maintenant, on sait que c'est le cratère Stickney, voilà.
Olivier de Goursac, 50 ans plus tard, on parle toujours de Viking 1 et Viking 2 avec du respect. Pourquoi autant de respect ?
Ah, c'est une bonne question. Ben parce que, en fait, même les ingénieurs sont reconnaissants aux gens de la mission. Parce que, en fait, il n'y aurait pas de programme martien s'il n'y avait pas eu Viking 1 et Viking 2. Mariner 9, on a pu avoir un début de cartographie de Mars. Enfin, ce qu'on dit globalement, c'est on connaît la Lune comme vue avec les télescopes terrestres grâce à Mariner 9. Et on connaît Mars vu par un satellite qui tourne autour, la sonde, par exemple, comme l'orbiteur lunar orbiteur à l'époque, grâce à Viking. Donc ça a été le début de la science martienne vraiment, c'est Viking. Tous les étudiants dont je fais partie, qui se sont formés sur Mars, l'ont fait sur la base de grâce à des gens eux-mêmes qui avaient développé. Exploiter la sonde Viking. Et donc, tous les étudiants aujourd'hui que vous avez maintenant sont les petits-fils de ces gens-là qui ont eux-mêmes développé la sonde Viking. Donc, Viking, c'est vraiment séminal dans le sens où il n'y aurait pas eu Viking, il n'y aurait pas de Mars tel que nous la connaissons aujourd'hui. En plus, ce qui est intéressant, c'est que, pour rebondir sur une très bonne question, c'est que déjà du temps de Viking, on a pointé les avantages et les inconvénients de la mission. Voilà. L'avantage de la mission, c'est qu'on cartographiait. Les inconvénients, c'est que comme c'était une mission qui était dédiée pour chercher la vie, on avait un peu négligé tout le reste. Et donc, on s'est dit, finalement, après Viking, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque une carte d'altimétrie complète de Mars. Il nous manque des vues à haute résolution, bien sûr. Il nous manque de la minéralogie martienne à grande échelle. Donc, en fait, on a développé toute une suite d'instruments qui avait été envisagé dès 1978. Donc il faut savoir que en 1978, alors que la sonde globalement marchait toujours sur Mars et qu'il y avait encore des orbiteurs autour de la planète, on a préparé la définition des missions d'après. Donc il y avait en particulier un orbiteur climatologique qui est devenu Maven. Il y avait un orbiteur polaire pour faire de la cartographie avec de l'imagerie à haute résolution. Et de la minéralogie, c'est devenu Mars Observer, puis Mars Global Surveyor, et complété par Mars Odyssey, parce qu'on se disait, mais où se trouve l'eau? Et donc, c'est Mars Odyssey qui a envoyé les instruments pour. Donc, en 1978, alors que la mission Viking était loin d'être achevée, on a eu déjà la définition de tout ce qu'il fallait faire après, et le calendrier était maintenu. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on se dit, oui, on définit des missions martiennes aujourd'hui, mais en fait, toutes les missions qui ont été envoyées jusqu'en 2000, je dirais même InSight, parce qu'InSight, c'est dans la foulée des missions Vikings, puisque comme on n'avait pas pu mesurer la sismicité de Mars, Viking avait été, on ne savait pas très bien ce qu'on avait compris comme signaux sur Mars avec Viking. On s'était dit déjà, pendant la mission Viking, on devrait envoyer une mission vraiment dédiée à écouter les vibrations de Mars et trouver les tremblements de Mars. Voilà. Donc en fait, tout s'est décidé en 1978 avec la définition des missions qui aujourd'hui tournent encore autour de Mars.
Olivier de Goursac, je rappelle que vous êtes vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France et nous parlons des sondes Viking 1 et Viking 2. Ces missions se sont terminées et ensuite il y a eu les retombées et comme vous l'aviez dit un instant, ces retombées vont servir aux futures missions.
Oui, tout à fait, effectivement, ça va servir à de nouvelles missions parce que d'abord, alors, les données sont tellement énormes pour Viking. Il a fallu beaucoup d'années pour d'abord les interpréter, ensuite il a fallu les cartographier vraiment bien la planète, parce qu'il y avait quand même d'excellentes images à bonne résolution de Viking, et on se posait un tas de questions, en particulier sur l'eau. Parce que, si vous voulez, grâce à Viking, on a pu cartographier beaucoup de chenaux martiens, donc les chenaux, c'est les anciennes rivières, on va dire, dans lesquelles l'eau a coulé. Et la grande découverte de Viking, ça a été de cartographier tous ces chenaux martiens. Et puis, on a trouvé quand même, visuellement, il y avait des taches claires, des taches un peu plus claires avec des étagements de couches dans le fond de Valles Marineris. Et ça a beaucoup interrogé parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On dirait que de l'eau s'est évaporée sur Mars. Donc, on sait qu'elle a coulé, mais elle a peut-être stagné. Et si elle a stagné, ça veut peut-être dire que la vie aurait une chance de se développer sur Mars. Et donc, ça a été, Viking a été, il y a eu tellement de papiers après cette mission Viking qu'il y a eu de quoi nourrir les chercheurs pendant longtemps. Mais qui se nourrissait un peu contre vents et marées, parce que Mars n'était plus à la mode, très clairement. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui s'intéressaient à l'époque à Viking et aux résultats et à Mars. Et il a fallu quand même se dire un jour, la NASA s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si on relançait une mission vers Mars? Elle a testé un peu comme ça, voir dans le grand public les missions de Mars, et elle s'est aperçue que Mars, les gens étaient restés très intéressés par la planète Mars. Alors vous allez me dire, mais on ne lance pas une mission où on ne fait pas des programmes d'après ce que pensent les gens. Ben si, un peu quand même, parce que c'est eux qui votent, qui donnent des budgets. Les sénateurs et les représentants de la nation se sont rendus compte que Mars restait un thème porteur. Par contre, on était en économie budgétaire. Il n'était plus question de faire des Vikings avec des énormes sondes très lourdes, très grosses, très, très chères. Il fallait trouver le moyen d'y retourner pas cher. Et ça a été Mars Pathfinder. On va dire le changement de mentalité, la vraie révolution mentale, c'est Mars Pathfinder. Et c'est parce qu'il y a eu Mars Pathfinder qu'on a les missions d'aujourd'hui avec plein de robotique à bord. Avant Viking, c'était une mission de chercheurs très grand public, parce que les images Viking ont fait le tour du monde entier. Hein. Vous savez, quand Viking 1 s'est posé sur Mars, toutes les images, les premières images de Mars ont été en couverture de tous les journaux du monde entier. Donc ça, les gens étaient fascinés par ça. Et ben après Viking, on s'était dit, faut faire des missions, mais les mêmes genres de missions, aussi spectaculaires mais moins chères. Et effectivement, d'une certaine manière, ça a fonctionné parce qu'il y a eu la convergence d'un nouvel administrateur qui s'appelait Dan Goldin, qui voulait faire du plus vite, moins cher et mieux. Et puis des nouvelles, générations d'ingénieurs. Enfin, pas si nouvelles que ça, qui étaient des anciens ingénieurs vikings, mais qui avaient compris comment faire moins cher.
Mais alors, Olivier de Goursac, il s'est passé combien de temps entre la fin des missions vikings et la mission suivante?
Alors en fait, pas tant de temps que ça. En fait, Viking est mort, on va dire, entre guillemets, en 1983. Et le programme Mars Pathfinder est né en 1992-1993. Il s'appelait au début Mesure Pathfinder, donc c'était le projet, c'est d'envoyer des petites sondes sur Mars, une flottille de petites sondes sur Mars pas chères, alimentées par des panneaux solaires. Et c'était un projet du centre NASA d'AMS en Californie. Et comme NASA AMS savait pas construire de sondes spatiales, on s'est dit on va confier le projet à Viking, au JPL, au Jet Propulsion Laboratory. Mais comme le Jet Propulsion Laboratory n'avait jamais posé de sondes sur Mars, puisqu'à l'époque, faut le rappeler peut-être aux auditeurs, c'est le programme Viking, c'est pas un programme du Jet Propulsion Laboratory, c'est un programme du centre NASA de l'Anglais sur la côte est en Virginie, Et donc, en fait, il a fallu, à ce moment-là, se dit, l'ANSA s'est dit, mais il faut, pour former les gens du JPL très vite, il va falloir faire venir les anciennes équipes.
Dans un instant, nous reviendrons une dernière fois sur l'héritage des missions vikings et sur ce qu'elles ont rendu possible pour l'exploration martienne moderne. Vous êtes sur IDFM Radio, à l'écoute d'À toi les étoiles, pour cette émission intitulée Viking 1 et Viking 2, 50 ans d'aventure martienne, en compagnie d'Olivier de Goursac, vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France. On s'accorde une dernière respiration musicale avec Shakira et Burna Boy. Die, die.
IDFM Radio 98 FM.
De retour sur IDFM Radio, vous êtes bien dans À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et d'astronautique chaque troisième dimanche du mois, 13h-14h. Aujourd'hui, dans cette émission intitulée Viking 1 et Viking 2, 50 ans d'aventure martienne, je suis en compagnie d'Olivier de Goursac, vice-président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France. Olivier de Goursac, je me souviens de ce petit robot qui s'était déplacé à la surface de Mars. Il paraissait minuscule en comparaison des engins qui ont suivi. Quel rôle a-t-il joué dans cette nouvelle étape de l'exploration martienne ?
Oui, alors vous avez raison. Alors c'est le petit rover Sojourner qui est monté sur la sonde Mars Pathfinder. Alors, en fait, à partir de Viking, les ingénieurs quand même, il y avait des roboticiens au Jet Propulsion Laboratory qui avaient commencé à développer, du temps de Viking, des rovers martiens, très gros, très lourds. En fait, c'était des ordinateurs mis sur roues, en fait. Mais ils avaient théorisé le fait de se déplacer sur Mars. Et à partir de 1987-1988, il y a eu deux grosses équipes de roboticiens au JPL qui se sont, on va dire, tout simplement qui étaient en concurrence. L'une qui s'appelait l'équipe de robotique, qui était pour faire déplacer des rovers, de gros rovers, à partir de ce qu'on appelle d'odométrie visuelle. C'est-à-dire que je prends une image de la surface devant moi et j'en déduis des formes, j'en déduis des reliefs et je continue à avancer ou je m'arrête. Et je regarde ça pour contourner éventuellement les obstacles. Et puis, il y avait une autre équipe qui s'appelait Intelligence Artificielle, qui, elle, développait des mini-rovers, un peu des jouets, qui, eux, avaient une logique qui était différente, une logique de comportement d'insecte, c'est-à-dire, globalement, j'ai des palpeurs, je palpe la surface devant moi, je tombe sur un gros caillou, je recule, je palpe ce caillou, j'en fais le tour, et puis je continue tout droit, bon chemin. Donc, en fait, c'était deux logiques différentes. Et elles étaient en compétition l'une avec l'autre. Et finalement, on a choisi un mix des deux. C'est-à-dire qu'on a envoyé sur Mars, avec la sonde Mars Pathfinder, un petit rover, qui était le rover Sojourner, qui avait cette logique, disons, de déplacement insectoïde, mais couplé à la puissance de l'informatique qui permettait de déterminer, à partir des images prises depuis la sonde elle-même posée sur Mars, un terrain en trois dimensions. Et ça a été une révolution mentale. D'ailleurs, on dit que Mars Pathfinder, c'est la révolution mentale au Jet Propulsion Laboratory. C'est elle qui a été la transition entre les équipes anciennes d'ingénieurs et les nouvelles équipes d'ingénieurs. Ce temps court de 10 ans, parce que entre la fin de la mission Viking et le début de la mission Pathfinder, il s'est écoulé totalement 10 ans, ça a permis à la NASA de rappeler les anciens ingénieurs qui ont dit attendez, pour traverser l'atmosphère de Mars, on a déjà tout testé, donc on va pas tout retester pour Mars Pathfinder, on va reprendre dans nos bouquins. Et dans nos rapports, tout, le parachute a été testé, en fait, on l'a, le bouclier thermique, on l'a déjà, il n'y aura plus que les 100 derniers mètres, on va pas freiner avec des moteurs fusées, mais on va freiner avec un cocon d'airbag. Donc, il a fallu développer les airbags. Les airbags, c'est la sonde était dans un espèce de cocon qui gonflait, on lâchait le cocon, il venait rebondir à la surface comme ça, et après, on dégonflait le cocon à plat, et la sonde, on dépliait les panneaux solaires, et on avait une mission qui marchait, voilà. Et tout ça, ça s'est monté avec un mélange de Viking et de Pathfinder. D'ailleurs, le patron à l'époque de Mars Pathfinder, hein, c'est lui qui m'avait moment embauché hein, pour faire de la communication du projet dans l'équipe, ce qu'on appelle de l'Outreach. On a monté l'équipe du Mars Outreach qui permettait d'avoir les images en direct. Aujourd'hui, ça marche toujours hein, parce que vous avez toujours les images en direct de persévérance, de curiosité, par exemple. Il nous disait à l'époque, ce qui est bien dans mon équipe, c'est que j'ai des anciens Vikings couverts de cicatrices, et des ingénieurs jeunes et brillants. Vous voyez, c'était un mélange.
On peut voir au fur et à mesure des missions l'évolution, Viking 1 et Viking 2 qui se posaient en statique, Sojourner, ce petit robot qui se déplace, qui s'alimente par des panneaux solaires, et puis au fur et à mesure, on arrive à d'autres robots plus gros, plus imposants, toujours alimentés par des panneaux solaires, et puis la dernière mission, maintenant, où il n'y a même plus besoin de panneaux solaires.
Oui, alors en fait, le rover que vous avez aujourd'hui, qui est Curiosity et Perseverance, ces deux rovers, sont des rovers qui avaient été conceptualisés déjà dans les années 1990. Seulement, à l'époque, on n'avait pas la robotique vraiment pour les faire bouger. Mais on avait déjà le concept, le même concept, hein, c'est-à-dire que avec la suspension rocker boogie, etc. Quand vous regardez le schéma du rover qu'on pensait pour le retour d'échantillon, c'est le même rover en fait, exactement le même design. Pourquoi ces équipes de rovers? C'est qu'en fait, immédiatement après Viking, en 1978, enfin disons que la mission n'était pas terminée, mais tout de suite les roboticiens se sont dit, il nous faut des rovers sur Mars. Ça a été tout de suite la demande, c'est il n'est plus question qu'on envoie des sondes stationnaires, on va faire des rovers qui roulent. Et pour ça, il y avait deux solutions. Soit on prenait sur étagère les anciens morceaux d'une sonde de Viking sur étagère et on remplaçait les pièces d'atterrissage par des chenillettes, des roues on va dire, soit on créait un vrai rover. Et donc on a testé les deux systèmes. Et finalement on s'est orienté vers le vrai rover. Le problème du développement des rovers, comme je vous disais, c'est un problème de développement informatique, parce qu'au début... pour le temps de calcul était très long. En fait, il fallait poser un ordinateur sur roue, l'envoyer sur Mars, et puis il y avait plus grand chose d'autre comme place pour les expériences. Donc, en fait, faire rouler un ordinateur, ça n'a pas grand intérêt. Donc, il a fallu attendre la miniaturisation des composants, d'avoir une robotique à la hauteur. D'ailleurs, on a un grand chercheur français, ingénieur Jacques Blamont, Dieu ait son âme. Il est parti il y a pas très longtemps. Mais il disait déjà, parce que moi, il m'avait prêté son bureau JPL, on avait pu déjà longuement discuter avec lui, il disait, ce qui est bête, c'est qu'on n'a pas le niveau au niveau robotique encore nécessaire, ça viendra, mais on ne peut pas encore faire de rover à cause de ça. C'est-à-dire qu'on a la technologie pour se poser sur Mars, on a des technologies pour prendre des images de Mars, mais on n'a pas l'informatique, enfin la robotique capable de faire bouger en autonomie des rovers. Parce qu'on peut faire bouger des rovers à l'instant T, mais par contre, comme il y a un décalage de transmission, il y a toujours entre 20 et 40 minutes de transmission. Donc, il faut que le rover soit autonome, parce que s'il arrive devant un trou, il faut qu'il puisse s'arrêter et pas tomber dedans. Voyez. Donc, tout ça, c'est une question de robotique.
Olivier de Goursac, on arrive bientôt au terme de cette émission. Si vous deviez résumer en une phrase ce que représentent Viking 1 et Viking 2 dans l'histoire de l'exploration spatiale, que diriez-vous?
En fait, je dirais les deux, mon général. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement Viking 1, Viking 2, c'est le programme Viking globalement. Il a développé tout ce qui nous permet de se poser sur Mars encore aujourd'hui. Voilà. Il nous a fait connaître la planète comme on la connaissait pas avant, de toute façon. On a pu toucher la surface et comprendre l'environnement martien à la surface avec ce programme Viking. Et puis, ça a formé quantité de gens, donc des ingénieurs qui ont passé le relais, des chercheurs qui ont passé le relais, parce qu'il faut savoir que tous les étudiants aujourd'hui que vous avez dans les campus d'université, y compris en France, ils doivent beaucoup à Viking, parce qu'ils ont eu eux-mêmes des profs qui ont appris de gens qui ont travaillé sur Viking, vous voyez. Donc, c'est incontournable. Alors, j'ai bien conscience aujourd'hui, quand on parle de Viking, ça fait ancien combattant, parce que les gens, ils pensent à Curiosity, ils ont même oublié Curiosity. Ils pensent au fameux rover Perseverance. Ils ont raison, parce que c'est le nec plus ultra, les images sont géniales. Tous les jours, on se promène sur Mars, on voit de la haute définition qu'on n'avait pas à l'époque, etc. On explore la surface comme jamais avec des instruments qui vraiment analysent la chimie fine. On a même des microscopes qui voient presque des microns de détails. Enfin, c'est ahurissant ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça relègue effectivement les sondes vikings à l'âge des dinosaures. Ce qui est vrai. D'un autre côté, la flamme, elle est venue de Viking. Et quand vous allez au JPL, quand vous allez dans les grandes universités américaines, à Viking, ils vous font le salut, quoi. C'est vraiment ça, parce que ils n'existeraient eux-mêmes pas s'il n'y avait pas eu ça au début. Et s'il n'y avait pas eu cette motivation, parce que moi, j'ai rencontré des gens qui ont monté le programme. C'était des gens qui avaient monté Apollo, vous voyez, des gens jeunes à l'époque qui avaient monté Apollo, et donc plein de fougue. Et vous avez ces gens encore aujourd'hui aux États-Unis, on les retrouve. Par exemple, la moyenne d'âge, par exemple, de SpaceX, C'est 25 ans, c'est comme la moyenne d'âge du temps d'Apollo. La moyenne d'âge du temps d'Apollo, c'était 25 ans, vous voyez? Donc des jeunes pleins de talent qui en veulent avec leurs techniques d'aujourd'hui, leurs méthodes d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, ils sont dans une continuité et c'est ça qui est génial. Vous voyez, c'est ça a lancé tout ça.
C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier de Goursac, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans La Toile et les Étoiles pour revenir sur ces 50 ans d'aventure martienne autour de Viking 1 et Viking 2.
Merci Franck, merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir invité en tout cas.
Avec plaisir. Merci également à vous, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Vous étiez à l'écoute d'IDFM Radio dans À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et d'astronautique chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Je vous donne rendez-vous le dimanche 19 juillet 2026 pour une émission spéciale consacrée à l'éclipse totale de soleil du 12 août 2026. Tous les conseils pour bien l'observer. D'ici là, prenez soin de vous, passez un très bon dimanche et n'oubliez pas, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Au revoir à tous. Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.